Vous écoutez
RMC.
Mercredi 10 août.
L'info sur RMC.
Ici votre réveil sonne, il est précisément 7h, vous êtes sur RMC, tout de suite le journal avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Le retour des flammes en Gironde, 1000 hectares détruits en seulement quelques heures. Le beluga retrouvé dans la Seine, sorti de l'eau très tôt ce matin, premier succès de l'opération de sauvetage de l'animal. Et puis Benjamin Mendy devant la justice britannique, le procès du footballeur français accusé de plusieurs viols s'ouvre ce matin.
C'est une situation inédite. 42 000 hectares sont partis en fumée en France depuis le début de l'été.
Une situation particulièrement inédite, donc Sébastien, et ça va vraisemblablement continuer puisque plusieurs incendies de forêt sont en cours dans tout le pays. Bonjour Garance Munoz.
Bonjour.
Incendie qui frappe notamment la Gironde. 1000 hectares de pins ont été détruits en seulement quelques heures. Le cauchemar recommence donc pour les habitants de la région.
Oui, 3500 personnes ont été évacuées près de Landiras 3 semaines après le gigantesque incendie qui avait ravagé 14 000 hectares de végétation. Les pompiers jugent à nouveau la situation très défavorable. Dans le Maine-et-Loire aussi, 1000 hectares sont partis en fumée. Le feu a progressé dans la nuit et n'est pas encore fixé, mais aucun dégât matériel n'est à déplorer. En Aveyron, les flammes ravagent les gorges du Tarn. 700 hectares ont brûlé et 3000 personnes ont été évacuées. Cet incendie a lui cessé de progresser, mais le feu n'est pas encore maîtrisé. Dans le Finistère, ce sont au moins 250 hectares qui ont brûlé. 230 hectares dans la Drôme, où le feu progresse encore. 3 pompiers ont été légèrement blessés.
Des feux simultanément dans toute la France, plusieurs feux, c'est du jamais vu ça, Garance Munoz.
Exactement, et cette multiplication des feux épuise les pompiers sur le front tout l'été, une situation dramatique qui risque de se reproduire chaque année, déplore le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile.
Ça fait déjà un mois et demi que les équipes sont engagées. On est donc sur un deuxième, un troisième, un quatrième cycle. Et les équipes sont fatiguées, travaillent dur. On avait projeté des cartes sur 2030-2050 avec les rapports du GIEC, avec l'analyse de Météo France. C'est des choses qu'on avait projetées à T+5, T+10 ans et qui arrivent déjà dès cet été.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dans un tweet hier apporte son soutien aux femmes et aux hommes qui luttent contre les flammes. Il se rendra en Aveyron dans la journée pour faire le point sur l'incendie.
Merci Garance Munoz pour toutes ces précisions.
On en vient à cette opération de sauvetage extrêmement délicate. Après plusieurs heures d'efforts et une bonne partie de la nuit, les secouristes ont réussi à sortir de l'eau ce beluga coincé dans la Seine.
Ils y sont arrivés au petit matin aux alentours de 4h et on va tout de suite à Saint-Pierre-la-Gadrenne. C'est là que se déroule cette opération de sauvetage exceptionnelle. Vous y êtes pour RMC, Mathieu Limongi, et le cétacé de 800 kilos subit actuellement des examens de santé.
Oui, même toute une batterie de tests hein, parce que les dernières heures n'ont pas été de tout repos, surtout pour l'animal. Si le calme est revenu ici, le dernier camion de pompiers vient de partir. Il y a eu plein de doutes et des tensions. On a vu des échecs pour immobiliser l'animal dans le filet, des changements de stratégie réfléchis sur le filet, beaucoup de questionnements. Au bout du compte, c'est une réussite. C'est félicité la sous-préfète d'Evreux. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'était à 4h du matin, au bout de la nuit et au bout du suspense que la silhouette blanche impressionnante du beluga a surgi de l'obscurité retenue dans un filet. Grand moment de stress pour l'animal coriace qui a malgré tout résisté. Sur place, maintenant, on attend les résultats de ces fameux examens réalisés sur l'animal une fois hors de l'eau. Actuellement, dans un camion réfrigéré, il partira selon les résultats des tests pour une écluse de Ouistreham avant d'être relâché en haute mer, si tout va bien, en fin de semaine.
Mathieu Limongi, en direct de Saint-Pierre-la-Garenne, vous suivez pour RMC cette opération de sauvetage tout au long de la matinée.
Et on y reviendra plus longuement juste après le journal. On sera en direct sur place pour suivre les dernières opérations. Il est 7h04 sur RMC. C'est ce matin que s'ouvre le procès de Benjamin Mendy au Royaume-Uni.
Le footballeur français devra répondre d'accusations de viol, de tentatives de viol et d'agressions sexuelles. Des faits qui auraient été commis entre octobre 2018 et août 2021. Nicolas Pelletier, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Chester, en Angleterre. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce procès sera très suivi.
Oui, une descente aux enfers qui passionne l'Angleterre. Voilà comment résumer l'affaire Benjamin Mendy en une phrase. Ce matin, le champion du monde 2018 va faire face au juge dans la petite salle d'audience du tribunal de Chester au sud de Manchester. 7 femmes, dont une mineure, accusent le défenseur de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Ces faits présumés auraient débuté en 2018 et se seraient tous déroulés dans son manoir de Presbury à quelques kilomètres d'ici. Benjamin Mendy a plaidé non coupable lors des audiences préparatoires. Il va maintenant devoir s'expliquer sur le fond du dossier. dossier. Les débats vont tourner autour de la question du consentement. Sous contrôle judiciaire depuis janvier, la vie du champion du monde 2018 a été métamorphosée, privée de passeport, obligée de pointer quotidiennement au commissariat. C'est une véritable vie métamorphosée pour le champion du monde. Depuis le début de l'affaire, le Français et ses avocats ont décidé de ne pas prendre la parole en public. Après ces 134 jours de détention fin 2021, les principales accusations qui le visent sont relatives à l'article 1 de la loi sur les délits sexuels britanniques. Benjamin Mendy risque donc la perpétuité.
Nicolas Pelletier, envoyé spécial de RMC au Royaume-Uni. Le choc dans les Bouches-du-Rhône. Ce matin, une fillette de 5 ans a été retrouvée noyée dans les temps de Ber hier. Elle était emportée par le courant en début de soirée. Elle n'a pas pu être réanimée. Une deuxième jeune fille, elle, a pu être sauvée. Elle a été évacuée à l'hôpital de la Timone à Marseille.
C'est notre débat ce matin au 32-16. La pénurie de main-d'œuvre qui touche bon nombre de secteurs.
Le BTP, les transports routiers, la restauration ou encore l'hôtellerie. Rien que dans ces deux derniers secteurs, ce sont 200 000 emplois qui sont toujours vacants. Des entreprises qui peinent à attirer les employés, mais d'autres en trouvent. Ils tentent même de les fidéliser, Paul Barcelone.
Pour attirer puis garder des employés...
Il n'y a pas 50 000 solutions. Hein.
Une marche à presque tous les coups, augmenter les salaires. Ce qu'a fait encore récemment David Zenouda, propriétaire de plusieurs bars et restaurants.
Moi, sur un établissement que j'ai sur la côte atlantique, on a dû proposer des salaires augmentés par rapport à ceux de l'année dernière d'environ 10 à 20%. Le chef de cuisine qu'on a pris cette année, il est payé nettement plus que celui de l'année dernière.
Mais il n'y a pas que les salaires. Certains chefs d'entreprise misent aussi sur les conditions de travail. Salle de repos à disposition, week-end de 3 jours ou encore télétravail et voiture de service. Option choisie par Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP en Seine-Saint-Denis.
Je rageais avant de partir en congé en me disant que mon entreprise devenait un garage automobile parce que tout le monde veut une voiture électrique ou une voiture hybride pour se déplacer, venir au boulot le matin. Ce qui compte, c'est que le salarié se sente bien, autonome, ayant la confiance de son patron. C'est sûr que le matin, quand vous vous levez, vous posez le premier pied par terre, vous dites « qu'est-ce que je vais faire de sympa aujourd'hui ?» Si vous n'avez pas ça en tête, changez de boîte.
Des efforts synonymes d'investissement, souvent de plusieurs milliers d'euros, qui obligent ces chefs d'entreprise à rogner sur leurs marges.
Alors, augmenter les salaires pour garder ses employés, améliorer les conditions de travail, est-ce la solution pour éviter de tomber dans cette pénurie, de manquer de personnel? Plus globalement, les patrons font-ils assez d'efforts pour garder leurs salariés et pour recruter? À qui la faute, cette pénurie de main-d'œuvre? Je vous pose la question. 32-16, on en débat tous ensemble ce matin sur l'application RMC également, onglet Direct Studio. À 7h40, dans une petite demi-heure, je recevrai un patron. Il sera face à vous. C'est l'ancien numéro 2 du MEDEF, Thibault Langsade. Lui-même patron d'une entreprise dans le numérique. Il est avec nous à 7h40 et il reste avec vous jusqu'à 8h30 pour dialoguer. Vous posez toutes vos questions au 32-16 et sur l'application RMC.
Football à présent et réveil difficile pour les Monégasques ce matin. L'AS Monaco qui dit au revoir à la Ligue des Champions pour cette saison. Défaite hier soir face au PSV à Eindhoven, 3 buts à 2 après les prolongations. Encore plus dur parce que les joueurs du club de la Principauté menaient au score 2 à 1 deux minutes avant la fin. Philippe Clément est le coach de Monaco.
Je pense que cruel, c'est le bon mot. On a dominé les deux matchs. Les deux matchs, nous avons eu plus des occasions que PSV, mais à la fin, tu n'es pas qualifié. Je suis certainement très fier de mes joueurs. Ils ont donné tous. Maintenant, ils doivent montrer que ça peut donner aussi l'énergie pour être la prochaine fois encore plus motivé, encore plus expérimenté. Et ça, je veux voir les prochains jours et les prochaines semaines.
Et puis l'OM a une nouvelle recrue, Alexis Sanchez. Il va s'engager pour 2 ans avec l'Olympique de Marseille. La star chilienne de 33 ans a été accueillie hier soir à l'aéroport de Marignane par 1 millier de supporters. Il sera présenté en conférence de presse cet après-midi au Vélodrome. Et puis ce rendez-vous ce soir 21h, le Real Madrid vainqueur de la Ligue des Champions affronte Francfort vainqueur de la Ligue Europa. Le match de la finale de la Super Coupe d'Europe, ce sera à Helsinki en Finlande. Match évidemment à suivre à 21h. À la télé sur RMC Sport 1 et à la radio, évidemment, sur RMC.
C'était le journal de Stéphane Jeunesse sur RMC. Il est presque 7h10 et on va retourner au 32-16. Beaucoup de réactions ce matin sur notamment le sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Bonjour Yann.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Ça va ce matin?
Ça va très bien. Je viens de finir ma journée.
Ah, vous travaillez de nuit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis gérant d'une entreprise de transport.
Gérant d'une entreprise de transport, c'est très bien de finir votre journée de travail avec RMC avant d'aller vous coucher. Vous êtes donc vous-même chef d'entreprise. Est-ce que justement sur ces questions de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que vous en souffrez? Est-ce que vous avez du mal vous aussi à trouver du personnel?
Ah bah moi j'ai réglé le problème parce que je voulais surtout réagir au discours du chauffeur que vous avez eu tout à l'heure, là, le voisin d'Estelle Denis. Quand il dit les patrons se gavent, faudrait qu'il s'installe à son compte et qu'il voit qu'est-ce que c'est les charges d'une boîte de transport. La majorité des boîtes de transport, c'est pas des grosses multinationales, c'est des petites entreprises. Moi j'avais 4 salariés.
Ouais.
Moi les chauffeurs, ils touchaient entre 3 500 et 4 000 euros par mois. Parce que des petites entreprises, on paye toutes les heures, on paye les frais de route comme il faut. Ils ont du matériel relativement bien équipé. Enfin, tout ça, c'est des charges en plus.
Et tout ça, ça compte aussi peut-être pour garder, pour fidéliser ses salariés.
Ben, je me demande parce que on a l'impression qu'aujourd'hui les chauffeurs sont jamais contents. Et pourtant, cette année, là, il y a eu une augmentation des salaires de 6% quand même. C'est pas rien.
Vous-même, vous avez augmenté les salaires de vos salariés de 6%?
Ben non, parce que moi j'ai viré tout le monde. Moi maintenant aujourd'hui je travaille tout seul parce que les chauffeurs, comme je vous disais, sont jamais contents. Certains on peut pas compter dessus. Ils vous appellent le lundi matin à 10h pour vous dire que le départ de midi ils pourront pas le faire parce qu'ils sont malades, parce que ceci, parce que cela. Et derrière, dans une petite entreprise, ben on n'a pas de solution.
Ouais. Il y a quand même des gens en France qui aiment leur travail et qui sont consciencieux et qui font bien leur travail. On ne peut pas généraliser, j'imagine, quand même.
Non, je ne veux pas généraliser, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Moi, sur 4 chauffeurs que j'avais, j'en avais un qui était vraiment bon et les 3 autres où j'étais pas sûr de compter dessus. Quoi. Donc, à un moment, pour faire des choix, j'ai préféré recommencer à travailler tout seul. Comme ça, je sais que je peux compter sur moi. Je sais ce que je gagne, je sais ce que ça coûte. Et aujourd'hui, je pense que les chauffeurs se rendent pas compte de ce que ça coûte les salaires. Hein. Aujourd'hui, un gars à qui on donne 3 500 euros, ça coûte 5 500.
Oui, bien sûr. Ça coûte beaucoup plus cher à l'employeur, c'est sûr, mais c'est aussi important d'avoir. Enfin, du coup, vous ne cherchez même plus à recruter, là.
Non, moi, c'est.
Ouais, vous avez acté le fait que vous n'avez plus envie de travailler en équipe, ça vous a dégoûté, quoi.
Exactement.
Merci pour votre témoignage, Yann, ce matin, qui, j'imagine, va faire réagir peut-être d'autres salariés, d'autres chefs d'entreprise. On va en parler aussi avec Thibault Langsad, ancien numéro 2 du MEDEF, dans moins d'une demi-heure. Il sera là à 7h40 et puis il reste avec nous. Il va dialoguer avec vous. Les patrons en font-ils assez pour garder leurs salariés? Je vous pose la question. 32-16, 7h13 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant sur RMC, on va parler du Beluga qui est resté coincé dans la Seine pendant plusieurs jours. Il a été sorti de l'eau cette nuit. L'opération de sauvetage se poursuit. Opération difficile, délicate. On va y revenir. On sera avec notre envoyé spécial, l'envoyé spécial d'RMC, Mathieu Limongi. Il est à Saint-Pierre-la-Garenne. On sera en direct dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h14 sur RMC.
Le témoin du jour.
Et nous partons en Normandie, à Saint-Pierre-la-Garenne, sur les bords de Seine. La témoin du jour, c'est vous, Isabelle Brasseur. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en direct avec nous au cœur de cette opération qui continue pour sauver ce cétacé, ce beluga égaré dans la Seine depuis une semaine. Vous êtes la responsable recherche et conservation au parc du Marineland d'Antibes, spécialiste donc de ce type d'animaux, et vous avez été dépêché spécialement sur place pour participer à ces opérations. Comment va-t-il cet animal qui a été sorti de l'eau au cœur de la nuit après plusieurs heures d'une opération très très délicate? Est-ce qu'on peut dire ce matin qu'il est sauvé?
Eh bien, il est étonnamment costaud, en tout cas, c'est sûr. Sauvé, on va rester quand même prudent. Ça reste un animal extrêmement maigre. On n'a jamais eu confirmation qu'il se soit mis à manger.
Ouais.
En fait, on a enrichi, comme vous le savez, l'écluse de poissons vivants. Et également, on a essayé de le nourrir, mais on n'a pas pu voir qu'il se nourrissait effectivement. Donc on est content de l'opération. Elle a fonctionné. L'objectif était de le sortir de cet environnement et d'aller le placer dans un environnement salin. Et donc...
Donc où est-ce qu'il est là
le haillon
au moment où on se parle, il est dans un camion, c'est ça? Et vous êtes dans ce camion.
On ferme le haillon à l'instant.
D'accord.
Et donc, on commence un convoi pour pour l'emmener au point B.
Ça veut dire que son état de santé, puisqu'il y a eu quelques examens, permet le voyage. C'est une seconde bonne nouvelle. C'est nouveau ça. Une bonne nouvelle.
On a essayé de petites bonnes nouvelles en petites bonnes nouvelles.
Ouais. Et donc ensuite, la prochaine étape, il va partir direction la Normandie. Direction Ouistreham, exactement.
C'est ça.
Pour le mettre donc dans un environnement pour retrouver de l'eau de mer. Et ça, c'est extrêmement important.
Oui, c'est extrêmement important pour lui. En fait, ces animaux-là, s'ils restent trop longtemps dans l'eau douce, développent des problèmes au niveau sanguin et autres qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, mais qui affectent grandement leur santé. Donc, lui permettre de retrouver un environnement salin était la priorité.
Donc, il va pas tout de suite retrouver la mer. Hein. Il va rester quelques jours à Ouistreham, c'est ça ? Explique-nous comment ça va se passer.
On fait une petite pause. On fait une petite pause. Voilà, pour voir effectivement si.
Dans un bassin, c'est ça ? Il sera mis dans un bassin.
Oui, si tout va bien. Vous allez le surveiller en fait.
Oui, c'est ça. On va le surveiller.
Dites-nous dans quelles conditions il va être transporté, puisque vous nous annoncez en direct sur RMC ce matin que le convoi est en train de partir. C'est une nouvelle étape, du coup 160 km à parcourir jusqu'à Ouistreham. C'est à nouveau très délicat. Dans quelles conditions vous transportez cet animal?
On s'est donné toutes les chances que le voyage se passe bien. Donc au niveau sécurité pour l'animal et le personnel qui l'accompagne, tout est en place. Donc je pense qu'on s'est donné toutes les chances que ce voyage soit un succès.
Il est installé dans un camion réfrigéré, c'est ça ?
Oui, il est installé dans un camion dont on a maintenu l'air entre 18 et 20 degrés. Et il est dans un brancard, et donc ce brancard est mis dans une caisse de transport.
Est-ce qu'il y a un risque, Isabelle Brasseur, que l'animal ne survive pas à ce voyage ?
Oui.
Il y a encore un risque ? Vous êtes encore ce matin dans l'incertitude ?
Oui, sur chaque étape, il y a eu ce risque-là. Donc, on est un autre.
Ce qu'il faut préciser également, c'est qu'il n'est pas possible, comme ce qu'on pourrait faire pour d'autres animaux, là, il n'est pas possible de l'endormir.
Non, en fait, effectivement, les cétacés ne supportent pas les sédations profondes. C'est des animaux qui ont une respiration qu'on dit consciente. Donc, c'est-à-dire, dit simplement, ça veut dire qu'ils doivent penser à respirer.
D'accord.
Et si vous êtes sédaté, eh bien, endormi, anesthésié, vous ne pensez pas à respirer et donc il pourrait s'étouffer.
Ça veut dire qu'il est conscient pendant tout le voyage et avec le stress que ça peut impliquer, j'imagine, de se retrouver comme ça enfermé dans un camion.
Oui, quand même, tout s'est pâté. Il est extrêmement serein. Il est très, très calme.
À quoi vous le voyez ?
Au rythme respiratoire calme, au mouvement calme. Tout le temps, lorsqu'il était dans l'écluse, il a été avec un comportement calme et une respiration constante.
Et donc il y a des bonnes nouvelles ce matin que vous nous annoncez sur RMC, Isabelle Brasseur. Merci beaucoup. En pleine opération donc de sauvetage de ce beluga, vous nous annoncez donc que le convoi va pouvoir partir parce que l'état de santé de l'animal le permet. Ce beluga qui a été sorti de la Seine vers 4h du matin, étonnamment serein et solide, en bonne santé, l'animal est vivant. C'est maintenant un convoi très délicat qui démarre vers Ouistreham. On va continuer de suivre évidemment cette situation avec vous et avec nos envoyés spéciaux en Normandie. Merci beaucoup Isabelle Brasseur, bonne journée et bon courage pour cette opération. Il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre dans une vingtaine de minutes sur RMC, face à la pénurie de main-d'œuvre, les patrons doivent-ils faire plus, mieux rémunérer les salariés ? On va en parler avec votre invité Sébastien.
Un chef d'entreprise, un patron face aux auditeurs d'RMC, Thibault Lanxade, l'ancien vice-président du MEDEF. Il nous rejoint à 7h40 et il reste avec nous jusqu'à 8h30 pour répondre à vos questions au 3216 et sur l'appli RMC. Mais avant cela, le reportage avec les artisans de nos régions, comme chaque matin, nous découvrons des métiers. Nous serons au Pays Basque. Nous allons découvrir les bâtons de berger sculptés pour les marcheurs.
Et puis la joueuse de tennis Serena Williams, la légende, va prendre sa retraite. Ce sera la Story Sport avec Léna Marjac. On va y revenir.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h24 sur RMC et RMC Story.
Les artisans de nos régions.
Et tout l'été, nous découvrons des métiers méconnus à travers des régions, à travers nos régions. Ce sont des artisans à qui vous pouvez rendre visite pendant vos vacances. Nous allons, tiens, au Pays Basque ce matin, dans le village de l'Arrésor. C'est là que se fabriquent depuis 7 générations des bâtons de marche, les maquilas, un savoir-faire inscrit à l'inventaire des métiers d'art rares de l'UNESCO. La famille Bergara perpétue ce savoir-faire dans son atelier. Et c'est Marie Sands qui nous en fait découvrir les coulisses.
L'origine de l'atelier, on la connaît pas exactement. Je sais que c'est très frustrant, mais c'est comme ça.
Sixième génération de fabricants, Nicole Bergara a longtemps géré l'atelier familial avant de laisser la main à sa fille.
C'est des photos qui ont été faites en 1919. Alors vous voyez, c'est le même établi, le même étau.
Cette famille est la dernière à fabriquer des maquilas sur mesure et de façon artisanale.
Autrefois, on en trouvait dans toutes les vieilles maisons et ce maquilas se transmettait de génération en génération. C'était un compagnon de marche parfaitement équilibré en son milieu. Comme il y a la dague à l'intérieur, ça servait éventuellement à régler les comptes. Pourquoi il a subsisté comme ça? Parce que notre famille s'est dévouée, que ça demande un tel travail.
À commencer par le bois, les néfliers poussent derrière l'atelier pendant 7 à 8 ans. Les branches sont gravées pendant leur croissance, puis il faut les sécher, les huiler et les colorer.
Ça fait une vingtaine d'années en tout, facile.
À chaque client, le morceau de bois idéal en fonction de sa taille, son poids. Une fois le bâton choisi, les artisans commencent le montage. Chimoun pose deux virolles en métal en haut et en bas du maquilla. Chaque pièce est unique.
C'est toujours dans un souci d'être pile poil à la bonne taille et personnalisé pour le bois. Et après, voilà, pour que ça rentre bien en force et bien parfaitement dans le bois. À l'enclume qui est derrière vous. Et là, c'est prêt.
Ce métal, du laiton, du maïchor ou de l'argent, est ensuite décoré de gravures. Chaque artisan fabrique ses propres outils.
Là, je vais faire du guillochage entre les traits que j'ai tirés. Bien forcé pour entrer dans la matière et faire des jolis sillons. J'ai fait deux poinçons qui sont complémentaires pour pouvoir faire la croix basque.
Puis Xavi, artisan maître d'art, s'occupe de frapper le nom et la devise du client en basque.
Là, il a mis tout simplement toujours plus haut. Beti Golago. Le Beti veut dire toujours, donc c'est B, alors je vais taper.
Au bas du bâton, le nom du fabricant, Ansiar Bergara. Le pommeau où sont gravées les initiales du client est lui tressé de cuir grâce à une méthode secrète. Chaque année, près de 1000 maquilas sont fabriqués ici.
Il n'y en a pas de pareil parce que le bois n'est jamais pareil. Ça dépend quel artisan fait les gravures, donc c'est pas fait pareil. Bah, ça peut être pour le bac, ça peut être pour une naissance, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un coup de cœur ou Saint-Jacques de Compostelle aussi.
Mais il faut être patient, un an et demi à deux ans d'attente et cela coûte de 380 à plus de 800 euros.
Un reportage signé Marie Sands pour RMC au Pays Basque, 7h27.
La Story Sport.
Avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
La Story Sport, c'est celle d'une légende du tennis. On parle de Serena Williams qui annonce prendre dans quelques semaines sa retraite après une carrière phénoménale.
Serena Williams.
3 titres du Grand Chelem, 73 titres en tout, 319 semaines à la place de numéro 1 mondial. Un palmarès incroyable et à bientôt 41 ans. Serena Williams a annoncé dans le magazine américain Vogue que le compte à rebours a commencé avant qu'elle ne prenne sa retraite. Il n'y a aucun bonheur pour moi là-dedans, c'est une grande douleur. C'est la chose la plus difficile que je pouvais imaginer. Je déteste ça, a-t-elle écrit. Et déjà lundi à Toronto, au Canada, après sa première victoire depuis plus d'un an sur le circuit, elle ouvrait une porte à une fin de carrière. Lorsqu'une journaliste lui demandait ce qui l'a poussé encore à jouer.
Je ne sais pas, il y a une lumière au bout du tunnel et je m'en rapproche. Je suis impatiente de l'atteindre. Elle représente la liberté. J'aime jouer, mais je ne peux pas faire ça pour toujours. Parfois, tu essayes juste de faire de ton mieux et de profiter de ces moments.
Serena Williams va donc ranger ses raquettes. Alors, on ne sait pas encore exactement quand, mais ce qu'elle veut faire, c'est évidemment se consacrer à sa famille.
Oui, elle a été maman en 2017 d'une petite Alexis Olympia et la famille pourrait s'agrandir. Ma fille le dit souvent, elle voudrait une petite sœur. Alors, l'Américaine insiste, elle n'aurait jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et sa fille et sa famille. Elle l'aime les deux, mais son sport, c'est 27 ans de sa vie. C'est surtout l'histoire d'une petite fille afro-américaine qui a grandi dans une famille modeste et qui rêvait de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde. Elle est devenue, c'est une icône, c'est une légende et elle a révolutionné son sport avec un jeu tout en puissance. Serena a marqué les esprits et surtout ceux de ses adversaires. Marion Bartoli l'a affrontée à plusieurs reprises et elle a même battu.
Sur le terrain, c'était bien sûr une véritable tigresse et qu'elle avait la ferme envie d'aller gagner tous les matchs. Et ça sera une joueuse qui, comme sa sœur, aura révolutionné le tennis et inspiré tellement de générations.
Son dernier match, Serena pourrait le jouer à l'US Open hein, dans quelques semaines aux États-Unis, c'est l'hypothèse évoquée.
Oui, alors elle a dit « Je ne sais pas si je serai prête à gagner l'US Open, mais je vais essayer » car Serena Williams rêve encore d'une dernière victoire chez elle. Elle a un record en tête, remporter un 24e Grand Chelem. L'américaine 407e mondiale ne fera pas partie des favorites au titre, mais avec son mental et portée par un public acquis à sa cause, elle peut rêver d'une belle sortie. Serena a d'ailleurs conclu son interview à Vogue par un dernier message à ses fans. Je ne suis pas douée par les au revoir, la pire au monde même. Vous m'avez portée vers tellement de victoires et de trophées, vous allez me manquer.
Thank you everyone, I love you.
Serena Williams, on la regardera évidemment jouer à l'US Open. Léna Marjac pour la Story Sport, merci beaucoup. Météo et journal de 7h30 dans un instant. Excellent réveil à vous tous, tout de suite l'info avec Alexandra Sirgan à 7h30. Rebonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Incendie toujours en cours entre l'Aveyron et la Lozère, 700 hectares brûlés en deux jours. Nous serons en direct de Massegros en début de ce journal. Le beluga sorti de l'eau de la Seine ce matin, des examens sont en cours pour voir si l'animal peut être transporté vers la mer. Et puis la Ligue des Champions, immense désillusion pour Monaco, éliminé après sa défaite contre Eindhoven hier soir.
On commence par ces incendies qui se multiplient partout en France.
Aucune région n'est épargnée. La Bretagne, les Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, 1000 hectares sont partis en fumée depuis hier. Et puis depuis lundi, un incendie ravage les départements voisins de l'Aveyron et de la Lozère. 700 hectares détruits et plus de 2000 personnes évacuées. On retrouve notre correspondante sur place, Estelle Henry. Vous êtes à Massegros en Lozère. Comment s'est passée la nuit ?
Eh bien écoutez, elle a été longue cette nuit au poste de commande que je me trouve près de la commune de Massegros en Lozère, vous l'avez dit, là où l'incendie a démarré lundi après-midi avant de se propager au département voisin de l'Aveyron. Les pompiers ont travaillé d'arrache-pied. Ce matin, le feu n'est ni fixé ni maîtrisé, mais il n'évolue plus selon la version officielle. La température a fortement chuté cette nuit, ce qui a aidé les 450 pompiers restés sur place. Ils se sont concentrés sur plusieurs foyers, notamment sur le flanc gauche de l'incendie, et cela a permis de contenir les flammes et limiter les dégâts. Le bilan des dégâts officiels ce matin, vous l'avez dit, il est toujours de 700 hectares de végétation parcourue par les flammes. Il faut dire que compte tenu du terrain particulièrement inaccessible et des conditions climatiques extrêmes, toutes les conditions sont malheureusement réunies pour favoriser la propagation du feu. Mais la situation, heureusement, semble évoluer favorablement ce matin. Le bilan humain est toujours à l'heure actuelle, où je vous parle, de 2 blessés légers parmi les pompiers et plus de 2000 personnes évacuées et mises à l'abri dans plusieurs hébergements d'urgence de 3 communes voisines. Ces personnes, dont beaucoup sont des touristes en vacances dans la région, viennent essentiellement des 7 campings de la vallée évacuée. Ils viennent de passer leur 2e nuit en hébergement d'urgence. Il n'y a pas eu de nouvelles évacuations aujourd'hui. Tous, en tout cas, espèrent regagner au plus vite leur logement.
Merci Estelle Henry, correspondante dans le Sud pour RMC en direct de Massegros en Lozère. 16 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui. Et si les Français souffrent des fortes chaleurs cet été, eh bien leur maison aussi. La sécheresse fragilise les sols et entraîne des fissures sur les murs et les plafonds. Pourtant, assurances et experts traînent des pieds à reconnaître ces sinistres et surtout à financer les réparations. Reportage d'Alfred Orange près de Nancy en Lorraine.
Dans le salon de la famille Pierre, les fissures parcourent les murs du sol au plafond.
On en voit sur la cheminée, on en voit. Là, on en a à l'autre côté.
Les premières sont apparues à l'été 2003, en pleine canicule. Christiane et Alain ont alors consolidé les murs, mais depuis, ces craquelures reviennent constamment.
On a l'air impuissant.
Eux ont déjà déboursé 20 000 euros. Mais pour convaincre assurance et experts que c'est la sécheresse qui est responsable de leur détresse, c'est la croix et la bannière.
On a enlevé les arbres qui étaient devant la maison, parce qu'il estimait que les racines pompent l'eau, et donc que c'était aussi en partie à cause de ça qu'on avait des fissures sur la maison.
Dans la région, ils sont des milliers à être concernés. François Manneville a créé il y a 6 mois l'association Lorraine Cata Sécheresse pour tenter de rééquilibrer le rapport de force entre assurances et sinistrés.
L'équilibre qu'on demande, c'est qu'ils mettent les moyens en amont pour que les sinistrés puissent dire à l'assurance, voilà, j'ai une étude de sol par un expert indépendant qui me dit que c'est la sécheresse. Donc, je déclare mon sinistre. Et non pas dans le sens inverse.
Désormais, ces associations veulent s'unifier pour constituer au plus vite une fédération nationale.
Autre conséquence du réchauffement climatique, ces animaux qui se déplacent loin de leur habitat, comme ce beluga coincé depuis presque une semaine dans la Seine. L'animal a finalement pu être sorti ce matin et les examens médicaux sont plutôt positifs. L'animal pourra être acheminé vers le quai vers Ouistreham. Il est toujours vivant, donc, assure la sous-préfète du département Isabelle Doria-Pouzet, mais il est très amaigri.
On lui a fait des prises de sang et puis des échographies. Donc les analyses sont actuellement en cours. Et puis ce que je sais, c'est qu'on lui a déjà fait une perfusion pour l'hydrater, pour lui permettre de bien tenir le coup pendant les quelques heures où il va être hors de l'eau, même si il est vaporisé régulièrement.
C'est une proposition qui fait débat au sein de la majorité à l'Assemblée nationale.
Élargir le droit de vote à tous les étrangers pour les élections municipales. Proposition du député Renaissance Sacha Houlier. Depuis 30 ans, les citoyens de l'Union européenne résidant en France ont ce droit. Une forme de discrimination entre deux catégories d'étrangers selon le député. Mais le texte divise déjà au sein de la majorité, Romain Cluzel.
Le sujet est sensible et Sacha Houlier précise qu'il présente ce texte à titre personnel. Pour justifier sa proposition, il prend l'exemple d'un Britannique qui n'a plus le droit de voter en France depuis le Brexit. Avec ce texte, le député de la Vienne est désormais président de la commission des lois, espère mettre en avant un marqueur de gauche au sein de la majorité. Le droit de vote de tous les étrangers aux élections locales, promis par François Mitterrand puis François Hollande, n'a jamais abouti. La proposition doit être discutée au sein de la majorité à la rentrée, mais elle devrait surtout ressurgir en octobre, au moment du débat sur l'immigration souhaité par Gérald Darmanin. L'entourage du ministre de l'Intérieur s'est empressé de marquer son opposition au texte de Sacha Houlier. En plus de cela, Sacha Houlier doit faire face au refus net des députés de droite et d'extrême droite.
Et on en parlera tout à l'heure à 8h40 avec le député Les Républicains Éric Ciotti, qui est vivement opposé à cette idée du droit de vote des étrangers aux élections municipales. Éric Ciotti est mon invité à 8h40 sur RMC.
Coup d'envoi aujourd'hui de la vaccination contre la variole du singe en pharmacie. Une expérimentation de 2 semaines débute donc aujourd'hui. Elle concerne 5 officines situées en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France. Objectif de cet essai, déterminer s'il est faisable d'étendre cette campagne de vaccination au niveau national.
RMC, il est 7h37. Nouvelle désillusion pour l'AS Monaco hier soir.
Oui, le club de la Principauté ne disputera pas la phase des poules de Ligue des Champions. L'ASM a été battu hier après prolongation. 3-2 face au PSV Eindhoven. Les Monégasques étaient pourtant qualifiés 2 minutes avant la fin. Et puis ce soir à 21h, finale de la Supercoupe d'Europe à Helsinki. Le vainqueur de la Ligue des Champions affronte le vainqueur de la Ligue Europa, Real Madrid contre Francfort. Match à suivre à partir de 21h, donc à la télévision sur RMC Sport 1 et à la radio sur RMC.
Les courses, le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule, c'est à 20h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le favori c'est l'As Galileo Bello, l'outsider le numéro 12, Écho de Champs-Lessy, l'As et le 12. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Merci Alexandra Sirgan pour le journal sur RMC, il est 7h38.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre, face à la pénurie de main-d'œuvre, les patrons doivent-ils en faire plus? Est-ce qu'ils doivent augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail de leurs salariés? L'invité du jour, c'est le chef d'entreprise Thibault Langsade. Il sera avec nous jusqu'à 8h30 pour répondre à toutes vos questions. Appelez-nous au 3216 ou écrivez-nous sur Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Justement, vos réactions sur Direct Studio. On parle donc de pénurie de main-d'œuvre. À qui la faute? Yann, transporteur, nous disait tout à l'heure au 32-16 qu'il y avait un véritable problème de motivation du côté des salariés. Et c'est pour ça qu'il a décidé, lui, personnellement, de s'en séparer. Il a raison, nous dit Bruno, ambulancier. Quasiment dans le même cas que lui, nous dit-il. Pour lui, augmenter les salaires n'est pas la solution. Julien, lui, révolté, totalement révolté par les propos de Yann. Il a une vision passéiste de ce qu'est un salarié. Aujourd'hui, le salarié de 2022 ne travaille pas la tête baissée pour un salaire de misère et pour des conditions de travail désastreuses, nous dit-il. Pour Céline, le problème, ce sont les aides qui n'incitent pas à travailler. Et puis pour Karim, les employeurs récoltent ce qu'ils ont semé après avoir maltraité les salariés pendant des années. Il était longtemps dans le secteur de la restauration, secteur qu'il a quitté et il ne le regrette pas, nous dit-il.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h41 sur RMC et sur RMC Story.
L'invité du jour.
Bonjour Thibault Langsade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous êtes l'ancien vice-président du MEDEF, vous êtes le PDG de Lumines, une entreprise dans le secteur du digital. Et je précise que vous restez avec nous jusqu'à 8h30 ce matin, puisque vous répondrez aux questions des auditeurs qui peuvent vous interpeller au 32-16 et sur l'appli RMC Direct Studio. Beaucoup, beaucoup de réactions ce matin des auditeurs sur ce sujet de la pénurie de main-d'œuvre et de la difficulté pour les entreprises à recruter. Est-ce que vous aussi, Thibault Langsade, vous êtes confronté à ce manque de personnel ?
Alors oui, comme toute entreprise, on doit recruter avant la fin de l'année à peu près une centaine de collaborateurs. On est un peu plus de 2000 dans le groupe. On recrute à Rennes, à Laval, à Mayenne, à Lens et à Paris. Et on a des tensions de recrutement. Alors dans des métiers un peu spécifiques, hein, qui sont les métiers IT, mais pas que. On a des métiers de production, d'opérateurs et dans l'informatique et pas que. Et on a aussi des métiers dans le traitement documentaire. Et donc oui, c'est une vraie difficulté.
Quel est le problème qui se pose ? Est-ce qu'on vous dit que les salaires ne sont pas assez élevés ou est-ce que tout simplement ces profils-là sont tellement recherchés qu'il n'y en a plus assez ?
Alors, on a à peu près toutes les situations. On a des tensions sur les salaires, mais on a aussi des tensions sur les compétences, parce que ce sont des compétences qui s'arrachent. Mais une fois de plus, on ne recrute pas que dans l'univers du numérique, de l'informatique. On a des opérateurs de traitement, et là aussi, c'est difficile de recruter. Alors, le salaire joue pour beaucoup. Ce que recherchent aussi les collaborateurs, c'est de la flexibilité, c'est de savoir si on maintient le télétravail ou pas, comme on a fait pendant la crise Covid, c'est de savoir comment l'entreprise se comporte, quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment le climat est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est assez pluriel comme conséquence, mais globalement on a une tension sur l'emploi qui est de plus en plus forte et qui s'est matérialisée, on va dire, après la crise Covid. Au moment où on est sorti de cette crise, au moment où on a demandé aux collaborateurs de revenir progressivement en entreprise, et là il y a eu un changement des comportements. Et puis comme vous le disiez, sur les métiers de l'informatique, là c'est une tension qui est très très forte parce qu'il n'y a pas beaucoup de collaborateurs formés.
Ouais. Pour vous, la faute, c'est la question qu'on pose et qu'on pose à nos auditeurs aussi ce matin sur RMC. La faute à qui, cette pénurie de main-d'œuvre ? La faute aux entreprises qui ne savent plus attirer ou la faute aux salariés qui se reposent un peu, peut-être un peu trop sur les systèmes de protection, sur le chômage ? Certains disent ça.
La question est éminemment complexe et elle est plurielle. Le souci numéro un d'une entreprise, c'est de recruter, de motiver, de fidéliser. Donc, je suis pas tout à fait certain que la cause, elle soit bien identifiée. Vous avez des tensions dans le recrutement de la restauration, mais là, on parle de la pénibilité de l'emploi. On parle sur des métiers qui ont été extrêmement difficiles. Quand vous regardez les instituts de sondage, et notamment sur le fait que les salariés se sentent bien en entreprise, 70% des salariés se sentent bien en entreprise. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, cette problématique de motivation, elle est caractérisée dans des filières extrêmement tendues. Oui, la restauration, l'hôtellerie, c'est pas forcément le cas dans l'industrie, c'est pas forcément le cas dans les entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, les entreprises, elles sont plurielles. Il y a des grandes, des petites, des métiers serviciels, des métiers qui sont plus tournés sur l'industrie. Et donc, la question aujourd'hui, c'est une croissance qui est assez soutenue, donc une tension sur l'emploi, parce qu'on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas, et puis des filières qui souffrent, parce que oui, la crise Covid a fait prendre conscience à certains profils qu'ils ne voulaient plus travailler de la même façon avant la crise Covid. Et donc, tout ceci nous met dans une tension de l'emploi assez généralisée. Hein. On le retrouve pareil dans les autres pays européens.
Oui, je disais que 50%, donc, là, en France, 58% des chefs d'entreprise déclarent être confrontés à des difficultés de recrutement aujourd'hui. C'est un niveau extrêmement élevé. Je voudrais juste qu'on aille au 32-16, parce que beaucoup d'auditeurs nous appellent pour dialoguer avec vous, Thibault Langsade. Et Marc est avec nous ce matin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, Marc ?
Moi, je suis salarié, je précise, je suis salarié et je cumule en même temps la retraite.
D'accord, vous avez 68 ans, je vois sur votre fiche. Mais vous travaillez encore. 68.
Pour le plaisir, mais aussi par nécessité, quoi. La retraite, ça représente un gros SMIG, c'est pas vivable. Donc, je suis actuellement chauffeur VTC pendant 8 mois de l'année. Ça me permet d'exister, quoi.
Mais et alors, comment vous voyez les choses ? La faute au patron ou la faute aux salariés ?
Moi, je suis ancien patron du transport et de la logistique. Donc, j'ai plutôt toujours l'esprit patron. Je pense qu'il y a pas, il y a peu d'incitation du salarié, parce que le salarié réfléchit à court terme. C'est peut-être le cas de quelques Français qui font beaucoup de télé-réalité. Par exemple, il dit « Oh, j'ai un bon chômage, je travaille pas ». Il faut savoir que sur le chômage, déjà, pour sa vie future et pour sa retraite, il ne cotise que pour la retraite complémentaire.
Donc vous pensez que les salariés se reposent un petit peu trop sur les aides?
Il faut pas généraliser, mais j'ai dit quand même, dedans il y a le tri à faire, quoi. Et c'est pas trop incitant, parce que même si on prend un travail en dessous de sa valeur, c'est quand même important de se remettre le pied à l'étrier et de revenir dans le circuit du travail. Ça peut servir de tremplin pour trouver autre chose. Et si vous êtes, parce que le tissu économique est fait principalement de PME, donc des entreprises à taille humaine, si vous avez un patron reconnaissant, il vous laisse pas au SMIC, il vous donne une perspective d'évolution.
Marc, merci beaucoup. L'importance de restaurer cette confiance entre les patrons et les salariés, Thibault Langsad. Il y a cette rupture de confiance parfois entre les patrons et les salariés. Il y a beaucoup de salariés qui ont le sentiment que les bénéfices de l'entreprise sont rarement très bien partagés, clairement.
Non, mais d'abord, je suis pas tout à fait certain qu'il y ait une rupture de confiance entre les salariés et l'entreprise, d'une certaine façon, et le chef d'entreprise. Après, oui, il y a un sujet qui est clair, qui est le partage de la valeur, et je pense que on est en train de changer de dimension. On rentre dans un capitalisme qui est, on va dire, en train de muter, avec de nouvelles inspirations, et le sujet du partage de la valeur est un sujet qui est extrêmement important. Je pense que les gens qui rentrent en entreprise, la rémunération, c'est pas le premier critère qu'ils demandent. C'est la qualité du job qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont continuer à progresser, est-ce que le climat social est bon, est-ce que l'ambiance de travail est sereine, et après intervient la rémunération. Alors, tout ceci est lié, hein. Je ne dis pas que la rémunération n'a pas son importance, mais ce qui est clair, c'est que de plus en plus aujourd'hui, on sera attentif aux résultats de l'entreprise, et on s'assurera que le partage de la valeur soit plus équitable.
Alors vous, justement, vous avez une mission qui vous a été confiée en 2020 par Bruno Le Maire. Vous êtes devenu ambassadeur de la mission sur l'intéressement et sur la participation. Il faut étendre ces dispositifs. Aujourd'hui, l'intéressement, ça n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, la participation, elle n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il faut que ça existe dans toutes les entreprises, même les plus petites. C'est ça que vous défendez aujourd'hui?
Moi, je suis, on va dire, favorable à faire en sorte que toutes les entreprises puissent avoir des instruments d'intéressement et de participation. Alors, pour les toutes petites entreprises, je pense que la prime partage de la valeur qui a été mise en place, anciennement prime Macron, permet, on va dire, d'avoir de la souplesse, de la flexibilité pour le chef d'entreprise.
Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir.
Alors, ça, c'est pas obligatoire. Mais je pense que toutes les entreprises devraient mettre en place un dispositif d'intéressement et de participation, ou en tout cas un des deux. L'intéressement, c'est quoi? C'est je fixe des objectifs avec les collaborateurs, on se met d'accord sur un chiffre d'affaires, on se met sur des accords, on définit des accords extra-financiers, qui pourraient être la réduction des accidents, la réduction, on va dire, de l'absentéisme, on se met d'accord sur le gain d'un gros contrat, et à partir de là, on a une rémunération complémentaire sur la base de ces objectifs. Et donc, ça nécessite au chef d'entreprise de faire vivre cet accord, de communiquer sur ses résultats au moins le mois et de faire adhérer, on va dire, les salariés à la stratégie de l'entreprise. La participation, c'est beaucoup plus simple, c'est une formule. Alors si je donne la formule là ce matin,
je pense que
les auditeurs tellement les compliqués, mais c'est une formule qui est très liée, on va dire, au résultat de l'entreprise.
Au bénéfice
de l'entreprise. Donc si l'entreprise gagne, le collaborateur doit gagner aussi.
Il y a un dispositif aussi que vous défendez, Thibault Langsad, c'est le dividende salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit souvent que tous les bénéfices remontent aux actionnaires et pas suffisamment aux salariés. Et là, ça obligerait l'entreprise à verser aussi une forme de dividende aux salariés?
Alors exactement, c'est de la participation. Je renforce les mécanismes de participation en allégeant la formule et en la musclant, et ce qui permet de pouvoir renforcer cette équité. Je dis pas que 1 euro pour l'actionnaire, c'est 1 euro pour le salarié. Le salarié, il est payé pour un travail, et le surcroît de valeur, c'est-à-dire l'import en industrie, doit être également rémunéré. L'actionnaire, il prend un risque, il investit massivement, il a pas de garantie, et donc la rémunération doit pas être le même. En revanche, on peut peut rééquilibrer un peu la formule qui permet de rémunérer à la fois l'actionnaire et le collaborateur.
Et on en est où de cette idée ? C'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. On en est où, puisque vous êtes un peu en lien avec le gouvernement sur ces questions ? Ça va voir le jour ? On va en reparler à la rentrée.
Je pense que le gouvernement a traité les mesures d'urgence au travers de la loi pouvoir d'achat, donc faire en sorte que l'on puisse voter rapidement cette loi, ce qui a été fait. Et je pense que ça interviendra dans un temps d'eux. Et c'est surtout de mettre en place la conditionnalité, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises qui versent des dividendes, elles doivent obligatoirement verser de la participation ou de l'intéressement, un des deux. Et ça se retrouvera dans un projet de loi, je pense, à la rentrée.
Merci Thibault Langsat d'être avec nous ce matin sur RMC, vice-président du MEDEF, PDG de Luminès. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal de 8h pour dialoguer avec les auditeurs d'RMC. On vous attend tous au 32-16 et sur l'application RMC, onglet Direct Studio. A tout de suite sur RMC, 7h52.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
RMC Place à la Culture, c'est votre rendez-vous dans la matinale d'RMC. L'été d'Angèle Châtelier, ses coups de cœur, ses conseils. Ce matin, on va parler de jeux vidéo. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h-5 sur RMC Story, c'est l'heure de la culture.
L'été d'Angèle.
Avec Angèle Châtelier, bonjour Angèle.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Nos rendez-vous avec tes coups de cœur tous les jours. Et la culture, c'est aussi les jeux vidéo.
Évidemment, un secteur qui a généré l'année dernière presque 6 milliards d'euros, c'est colossal. Je sais pas si vous jouez souvent. Non,
je me suis arrêté à l'adolescence.
Moi j'y jouais souvent quand même quand j'étais plus jeune, mais je vous avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur sur un jeu vidéo phénomène. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est sorti il y a quelques semaines et ça s'appelle Stray, c'est disponible sur PlayStation 4, 5 et PC. Et dans ce jeu, vous incarnez un chat, un sublime chat roux, comme le mien. Alors, derrière ce jeu, une entreprise qui vient de Montpellier, il fait déjà le buzz, ce jeu. Vous êtes placé dans la peau. Ouais, très très beau chat. Vous êtes placé dans la peau donc de ce chat errant. Il y a des énigmes, des quêtes. C'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros et ce sera parfait pour votre été si vous avez l'envie et le budget, c'est à partir de 12 ans.
Et vous avez les images de ce chat sur RMC Story, Canal 23. Promis. Stray, donc pour cet été, j'imagine qu'à la rentrée, c'est comme la rentrée littéraire, il y a des jeux vidéo qui arrivent.
Exactement, c'est ça. Et pour être sûr de vous prodiguer les meilleures informations, je suis allée toquer à la porte de la rédaction du site jeuxvideo.com, référence en la matière. Et c'est le journaliste Mohamed Aiguin que j'ai rencontré. Et lui mise beaucoup sur un jeu très attendu, Hogwarts Legacy, un jeu qui prend place dans l'univers d'Harry Potter et qui devrait sortir dans quelques mois.
L'objectif, c'est clairement d'être dans un monde où être immergé dans Poudlard en fait et dans tous les lieux qui seront un peu aux alentours, et on va devenir le sorcier qu'on a vraiment envie d'être. On va choisir sa maison, sa propre baguette, mais également ses propres amis. La particularité ici, c'est qu'on n'aura jamais eu autant de lieux à découvrir, jamais autant de liberté, jamais autant de possibilités d'interaction avec le monde, les personnages, etc. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui attire le plus les gens, parce qu'auparavant les jeux étaient basés sur les films surtout, et on va découvrir plein de mystères de l'univers de Poudlard, etc. Plein de choses qui sont dans la saga Harry Potter qui seront expliquées dans ce jeu. C'est clairement le jeu Harry Potter que tous les fans d'Harry Potter ont envie de découvrir pour vraiment avoir une aventure qui sera épique. Ils pourront s'immerger un maximum. Donc je conseille vraiment ce jeu en premier parmi les jeux les plus attendus pour cette fin d'année.
Le visuel. Ouais.
Super, ça va cartonner. Vous entendez dire, là, ça a l'air génial. Oui, mais oui, c'est évident. Harry Potter Hogwarts Legacy qui est donc attendu pour l'hiver prochain sur PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch, enfin bref, tout. Mais préparez-vous aussi, Sébastien, à vivre une rentrée sous le signe d'Avatar, le blockbuster de James Cameron sorti en 2009. Plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes.
Et donc c'est maintenant un jeu vidéo qui sort ?
Exactement, c'est ce que m'a confié Mohamed. Ce jeu s'appellera Avatar Frontiers of Pandora.
C'est un jeu qui justement prendra place dans l'univers de Pandora, qui sera en vue FPS, donc en vue à la première personne. On verra pas notre personnage pour vraiment avoir un maximum d'immersion. Pour le moment, on a eu qu'un trailer. Par contre, le trailer était extrêmement explosif et montrait vraiment toute la subtilité par rapport au nouveau moteur de jeu et les graphismes qui sont mis en place pour avoir un Pandora qui est vraiment ultra réaliste et qui justement va de pair avec la sortie d'Avatar The Way of Water en décembre prochain. Donc on est vraiment dans une période Avatar à partir de septembre avec la sortie du film, ensuite le jeu, puis le second film. Là, je pense qu'on va vraiment être plutôt pas mal.
Ouais. Tiens donc, sortie du film, jeu vidéo bien coordonné, franchise Harry Potter. Bon, on est sur les fondamentaux qui marchent très très bien. C'est vrai que les visuels que vous voyez sur MC Story sont très très beaux. Angèle Châtelier, pour quelques conseils jeux vidéo ce matin sur RMC pour préparer la rentrée. À demain Angèle.
À demain.
Dans un instant, la météo et le journal de 8h.